Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Marie-Patrux, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de 48. Vous êtes journaliste sur Bein Sport. On vous retrouve tous les jours de la semaine aux commandes de NB Extra. Vous officiez aussi sur le tennis, le hand, la natation et on m'a même dit un peu de foot avec le PSG Real qui arrive le lendemain de notre enregistrement. Vous êtes passé par Eurosport et l'équipe TV. Première question très simple. Vous lui avez dit quoi à Stephen Curry le 25 août 2017 au Parc des Princes?
Je lui ai dit oui, je peux t'avoir deux places pour le Parc des Princes.
Ah non, il était déjà là.
Non, non, parce que faut connaître l'histoire en entier. C'est ça qui est plutôt intéressant. Stéphane Curie qui était en week-end avec sa femme, donc à Paris, ils se sont fait un petit tour d'Europe avant la rentrée des classes, notamment. Et lorsqu'ils étaient à Paris, ils cherchaient deux places pour aller voir Neymar qu'il avait rencontré lors des finales. Pour venir voir donc le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Et le chauffeur qui les conduisait, qui leur a fait visiter Paris, m'a appelé en me disant « Stephen Curry cherche deux places pour le Parc des Princes ce soir ». Et je lui ai dit « Elle est très bonne ta blague, c'est pas drôle, c'est pas lui ». Et donc il me dit « Si, si, c'est lui, et, salut, c'est Stephen Curry, si, si, je vais aller au Parc des Princes ». Donc évidemment, branle-bas de combat de mon côté. Et du côté du Paris Saint-Germain qui était ravi d'accueillir cette immense star qu'est Stephen Curry et ce joueur incroyable. Et donc on s'est retrouvés au Parc des Princes le soir même. Il m'a très chaleureusement remercié, sa femme aussi. Ce sont des gens d'une simplicité assez incroyable quand on connaît la carrière qu'il a aujourd'hui. Et vraiment c'était une soirée dingue parce que je ne l'ai pas vu refuser une photo, une poignée de main. Il a accepté tout ce qu'on lui a demandé de faire. Il a été d'une gentillesse incroyable avec tout le monde et notamment avec moi aussi. Enfin bref, c'était comme si j'avais mon correspondant américain qui venait à Paris, quoi.
Ah oui, alors c'est vrai que c'est incroyable. Donc c'est vous qui avez fait rentrer Stephen Curry au parc.
Enfin, j'ai fait rentrer. Je lui ai permis de voir un match au Parc des Princes. Ouais. Il était bien placé.
Alors, pour nos auditeurs qui vous connaissent pas, Stephen Curry, c'est votre chouchou.
Ouais.
C'est venu comment d'ailleurs de parler de ça à l'antenne? À quel moment vous dites, bon ok, je peux en parler comme ça?
Franchement, je pense que notre quotidien est tellement ressemble. L'émission ressemble tellement à ce que l'on est au quotidien. Que je ne me suis pas posé la question. On est toujours à la recherche du bon mot, qu'on soit avec Jacques, Rémi, Chris, Eric ou Xavier, que c'est venu vraiment comme si je discutais avec eux à la cantine de Stephen Curry. Mmh. Et puis je pense que Jacques a dû me dire un jour « c'est votre chouchou ». Je dis « bah oui, c'est mon chouchou ». Et puis on a gardé ce truc-là, comme le marsupilami qui est Russell Westbrook, l'étrange volatile qui est Anthony Davis. Ça fait partie de nos discussions de tous les jours et donc de l'émission aujourd'hui.
D'ailleurs, on n'a pas l'impression qu'on vous embête trop avec ça, d'ailleurs. Il n'y a pas de...
Il y a eu une seule période, quand même. Ouais. J'ai eu une bonne période, notamment quand il est MVP unanime. Et évidemment que j'en ai bien profité. Il y a des gens qui n'aiment pas Stephen Curry, il faut le savoir.
C'est vrai. Vous étiez accusé d'avoir sauté dans le train en cours, c'est ça?
Ouais, non, pas vraiment, non. Mais que j'en faisais trop, que j'étais pas objective, qu'il n'était pas si fort que ça, etc. Alors que je pense que justement, les années où j'en ai fait le plus, c'est les années où il était le plus fort.
Mais alors justement, je disais aussi ça parce que, alors, pour être très franc, ouais. je voulais vous poser une question type parce que c'est pas difficile d'être une journaliste sportive sur Twitter avec tous les gens qui vous disent que vous êtes pas légitime, etc., etc. Et en fait, j'ai parcouru vos mentions ces derniers jours et j'ai trouvé grosso modo que de l'amour.
Ouais. C'est ma grosse victoire.
Donc, ouais, alors j'étais honnêtement, voilà, donc j'avais un angle tout près, etc. J'ai dû le mettre à la poubelle. Mais non, mais alors du coup, je me demandais, voilà, comment vous avez fait pour casser Twitter comme ça et que ce soit que du positif.
Bah, j'ai travaillé. Voilà, hein, le travail paye. Après, je pense qu'il y a un moment donné, on peut pas critiquer les gens pour de mauvaises raisons. Que j'ai de la légitimité et que les gens s'en sont aperçus, que l'émission fonctionne, que mon travail fonctionne et qu'il y a un moment donné, on peut pas critiquer pour critiquer, même si c'est un sport national sur les réseaux sociaux.
C'est vrai, tout est critiquable sur les réseaux sociaux.
Exactement, et j'accepte toutes les critiques, il faut le savoir aussi, sauf sur ma mère et mon physique.
Ouais. Non, mais alors, encore une fois, sincèrement, moi j'étais épaté, j'ai dû remonter, je sais pas, 2-3 jours de trucs, je cherchais quelque chose un peu...
Bah, je ne suis que de l'amour, hein, il faut le savoir.
Hein. Non, mais je vois ça.
Je déteste le conflit. Il faut le savoir que le matin, moi, quand ils commencent tous à se disputer, je veux que tout le monde se calme. Qu'il y a une journée dans la semaine, c'est la journée des fleurs et des cœurs. On n'a pas le droit de se disputer.
C'est vrai?
Oui. La semaine dernière, ça devait être le jeudi ou le mercredi. J'instaure ça parce qu'on est quand même là tous les matins très tôt. C'est très difficile, il ne faut pas se cacher non plus. C'est formidable hein, ce qu'on fait. Mais on peut être fatigué mentalement par moments. Mais il faut aussi savoir s'apprécier parce que ce qu'on fait est formidable.
Comment on fait une conf de rédac avec que des fleurs et des cœurs?
Ah bah, on dit oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ton idée. C'est une bonne idée, mais voilà, on essaie de mettre un peu les formes dans les discussions.
Après, vous le disiez, NBA Extra, c'est une ambiance très familiale. Ouais. Vous avez créé un style très familial. Comment on fait par contre pour rester accessible au public, jamais tomber dans la private joke non plus, pour pas exclure le téléspectateur qui découvre?
Je pense que justement, on montre qu'on s'apprécie tous énormément, mais qu'on montre aussi que n'importe qui pourrait être autour de la table avec nous. C'est-à-dire, on a cette volonté de n'exclure personne et surtout pas les gens qui nous regardent. Évidemment que c'est un kiff pour nous de parler de NBA tous les jours à midi et demi, midi 45. Mais je pense qu'encore une fois, c'est dans notre nature à tous de rendre les choses accessibles. Et nous, d'être accessibles aussi parce qu'on est personne et parce que finalement, l'expertise que l'on veut entendre, c'est celle de Jacques, de Chris et d'Eric.
Vous insistez beaucoup là-dessus, j'ai lu quelques interviews où vous dites justement, voilà, c'est les consultants qui parlent, moi je suis là pour les mettre en valeur, ça se ressent beaucoup dans ce que vous dites à
chaque
fois.
J'ai grandi à Eurosport, hein. Donc qui est quand même l'école de la rigueur pour moi, et où certes les journalistes sont de véritables encyclopédies de tous les sports qu'ils traitent, et pas que les leurs. Je pense que ça m'a beaucoup appris justement de m'intéresser à tout, mais également, moi je suis journaliste, je suis pas là pour faire part de mon expertise que... Si je dis je n'ai pas, là, je vais me prendre un torrent de commentaires. Mais en même temps, je vais sûrement pas dire à Jacques Monclar que je connais mieux le basket que lui.
Ça peut être risqué.
Voilà.
Ça peut être risqué.
Et le risque est toujours très mesuré chez moi.
Alors justement, vous parliez un petit peu tout à l'heure des journées, de la conf de rédac du matin, etc. Pour donner une idée quand même à nos auditeurs, c'est quoi la journée type NBA Extra aujourd'hui?
Alors, on va passer... En fait, c'est comme si une journée ne s'arrêtait jamais. Faut le savoir et faut garder ça dans un coin de sa tête. Alors, on arrive aux alentours de 8h30 au bureau, parce que nous avons des familles et des enfants amenés à l'école avant. En général, il y a quelqu'un qui est déjà là, qui a déroché les images de la soirée, et qui a déjà une idée un peu globale de ce qui va se passer. Moi, je me suis levée bien plus tôt et j'ai déjà tout épluché sur Twitter, sur les réseaux, sur ESPN... J'arrive pas au bureau en ne sachant pas ce qui s'est passé le matin.
Moi, je croyais que vous arriviez devant la caméra et que vous aviez juste à parler.
Quelqu'un m'a écrit mes fiches, etc. Et donc, tout le monde... La consigne entre nous, c'est que tout le monde sait à peu près ce qui s'est passé parce que tout le monde doit apporter quelque chose. Je suis donc souvent avec 3 chefs d'édition. Mathias Duché, Adiolala, Peter Anderson, Florian Michel et Florent Aubert. Rémi ou Xavier commentent le match de 9h30, donc souvent on ne participe pas à cette réunion. Et cette réunion, c'est vraiment ce qui va construire l'émission. C'est la détermination après de ce que vous allez regarder en direct. Donc la réunion, on choisit les matchs. Par exemple, aujourd'hui, il y avait 7 matchs. Ben, on prend lesquels en plateau, on met lesquels dans un sujet, etc. Comment est-ce qu'on traite ces matchs? Évidemment, on a un moment de la saison régulière là où on commence un peu à tourner en rond sur les équipes. On a un peu tout dit. Donc, il faut qu'on retrouve à nous d'avoir l'ingéniosité d'intéresser les gens, mais sur un autre angle. Après, il faut que la réunion elle soit terminée au plus tard à 10h30, en sachant qu'on est des gens très bavards et que tout le monde raconte à un moment donné sa vie au milieu de la réunion. Donc, on a fait 2 matchs. Ah ouais, au fait, t'as regardé ça hier. Ah ouais, c'est super. Enfin, bref. Mais que ça fait partie de nous aussi, qu'on a des débats interminables, je suis pas d'accord, mais si je suis d'accord, enfin bref. À 10h30, c'est terminé, chacun va vaquer à ses occupations. Moi, je prépare mon conducteur et mes fiches, en sachant que je n'écris rien. Il faut savoir, je n'écris rien, j'écris que des mots-clés et je pars avec mes feuilles et voilà. Je dis aux garçons qui sortent de leur match, on a pris ce match-là, on a pris ce match-là, on a pris ce match-là, pour qu'ils préparent leur résumé. Maquillage à midi. Antenne à 12h45. Jacques est arrivé à 12h40. Et Jacques a travaillé de son côté et franchement, il travaille énormément tout le temps. 13h30, c'est terminé. Cantine, parce qu'on a très faim, très très faim. La cantine dure une heure à peu près. Souvent, on se redit ce qu'on avait vu dans l'émission. Ça, c'est pas bien. Ça, faut qu'on refasse. Souvent, la cantine est vraiment propice au débriefing. Et après, on discute souvent avec nos autres collègues des autres sports. Il y a les gens du foot qui viennent manger avec nous et tout. Et en général, la bande d'NB Extra est appréciée pour être très volubile et très bavarde.
Ça fait quand même des sacrées journées. Ça fait des sacrées journées. Et donc, en effet, vous ne vous pointez pas devant la caméra juste avec des fiches préparées.
Non, je ne fais pas ça.
C'était aussi pour déconstruire un petit peu ce mythe-là que je me permettais la question. On va passer un petit peu au basket pur, Marie, avec un générique que vous connaissez sûrement. C'est la musique d'entrée du 5 majeur, donc c'est le moment pour vous de me donner votre 5 majeur.
Comme ça là. Mon 5 majeur all-time, à tout jamais de ma vie.
Actuel et all-time.
Oh là là, mais faut me le dire avant tout ça là, moi je suis pas réveillée. Alors.
On précise quand même, vous parliez de débrief, je vous ai privé du débrief et de la cantine puisque vous êtes venu enregistrer directement après l'émission.
C'est quand même un truc que je ne rate jamais.
Bon. Merci beaucoup alors, d'autant plus. Alors du coup ce 5 majeur actuel.
Alors je vais mettre Clint Capela, que j'apprécie énormément, qui est un garçon adorable et qui a fait une énorme progression cette saison. Bon, après en 4, je pourrais mettre LeBron James.
Small ball alors.
Hein ?
Plutôt small ball.
Ouais. Faut pas déconner au bout d'un moment. Après, je pourrais prendre Lou Williams. Après, il y a les ailiers qui est un véritable ailier aujourd'hui. C'est tellement compliqué, quoi. C'est les mecs qui jouent à tous les postes, et ils montent la balle, ils mettent en place. Enfin, voilà. C'est compliqué, votre truc. Il y a Vita Dipo aussi, qui est quand même pas mauvais en ce moment.
Ah ouais, c'est un 5 très tendance de l'année. C'est pas mal. Si on met Oladipo.
Ah mais ça, c'est mon 5 actuel.
Oui.
Je sors d'une émission.
Non, mais très bien.
Il a
très
33
bien.
Points.
C'est vrai.
C'est lui. Ah, parce que c'est dur d'avoir du recul quand on parle de ça tous les jours.
Ouais. Donc on a dit pour l'instant Capela,
LeBron. Ah non, je vais mettre Kevin Durant
évidemment.
Quand même. Je vais mettre Stephen Curry, évidemment. Mais je vais mettre Klay Thompson.
Ouais,
j'adore Klay Thompson.
Pas de James Harden MVP dans le 5.
Non.
Bon, Klay Thompson.
Je suis comme ça là.
Deux Warriors. Non,
des
mais très bien.
Insultes,
très bien. Oh, mais non. Normalement, non. On a dit.
Il est fort. Non, mais franchement, il fait des trucs incroyables.
Il est excellent. C'est
super
c'est
joueur. Exceptionnel.
Des deux côtés du terrain en plus.
Ouais, faut pas déconner. Bah, c'est pas le défenseur de l'année.
Non, mais c'est pas James Harden non plus.
De qui?
Klay Thompson.
Ah oui.
Je parlais de Klay Thompson.
Je parlais de
Klay Thompson.
James Harden. Ok, on sait pas.
Non, je complétais le 5.
Klay Thompson est un excellent défenseur. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai préféré à James Harden.
Et alors, le 5 majeur all-time?
Ouais, je trouve ça horrible de faire des trucs pareils.
Oh,
c'est affreux.
Ça fait partie du jeu. On n'est pas dans une émission où on fait beaucoup de polémiques ou quoi que ce soit. Là, c'est le seul moment un petit peu où il faut trancher.
Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird.
Bon, pour l'instant, c'est solide.
Ouais, je prends pas trop de risques, encore une fois. Karim Abdul-Jabbar, qui est quand même pas mauvais, qui était pas mauvais dans son genre.
C'est un bon petit joueur.
Ouais, j'aime bien. Et alors, c'est du small ball encore. Hein. Je vais mettre Kobe Bryant.
Ouais, ça fait donc Magic, Kobe, Jordan, Bird, Karim.
Voilà. Bon, parce que Kobe Bryant, je trouve qu'en vieillissant, c'est comme le bon vin.
C'est vrai. Bon, en plus, il est oscarisé maintenant.
Ouais. Donc, classe, hein.
Il est oscarisé, cet homme a tout fait. Merci Marie pour ces 5. On va passer du basket au basket avec un petit blind test pour vous.
Oh. Ouais, d'accord. C'est la petite maison dans la prairie.
Alors, est-ce que c'est vrai qu'on vous appelait Nelly Olson quand vous étiez joueuse?
Ouais, je sais exactement dans quelle salle et où. Hein.
Ah, c'est vrai?
Biorel en Normandie.
À Biorel, c'est à côté de Rouen, non? C'est ça?
Ouais. On était souvent dans cette zone-là. J'étais une joueuse quand même pas très sympathique. Hein.
C'est vrai?
Ah non, mais un caractère de cochon ultime. Les arbitres me détestaient. je pense que mes adversaires me détestaient. Peut-être que mes coéquipières m'ont bien détestée également par moments. Mais donc, on me surnommait Nelly Olson, en effet, dans cette fabuleuse contrée.
C'est vrai que j'aurais dû rappeler pour nos auditeurs qui sont nés après, comme 1995, que donc La Petite Maison dans la Prairie, c'est une série qui a été multi diffusée sur M6, et donc Nelly Olson était un peu la méchante.
Voilà, très clairement la méchante, la peste quoi, du village.
C'est vrai. En tout cas, c'est une manière aussi d'arriver là-dessus. Vous avez un vrai passif basket. On évoquait un petit peu en rigolant sur Twitter la légitimité, etc. Vous avez 20 ans de basket. Mmh. Vous êtes allé jusqu'aux sélections à l'INSEP, si j'ai bien compris. Ouais. Et du coup, ça. Alors, il y a un moment où vous pensiez vraiment en faire votre boulot ou aller plus loin ou...
Franchement, non, parce que mon éducation m'a pas du tout tourné vers ça et que je pense que j'avais pas la maturité non plus pour affronter ce que pouvait être le haut niveau, et on fait face au haut niveau assez jeune, hein, quand même, quand on commence à être détecté, etc. Et que mes parents, de toute façon, m'ont très clairement fait comprendre que j'allais faire des études, j'allais pas jouer au basket. Mes copines ont joué au basket. Moi, je suis allé à la fac.
Vous avez quand même fait des camps de basket avec Robert Parrish aux États-Unis. Ouais. Il était comment, Robert Parrish?
C'était génial, franchement. J'ai fait à Boston, j'ai fait des camps de basket donc à Boston avec Robert Parrish et à New York aussi. Et c'est une immersion assez incroyable. On est pendant 3 semaines, on bosse à l'américaine. Quand on vient de la formation française, on se rend compte à quel point c'est différent et à quel point on peut nous dire qu'on est bon aux États-Unis et que c'est jamais assez en France, par exemple. Et c'était franchement c'était génial d'avoir ces trucs là. Techniquement, on nous apprend beaucoup de choses. Et moi, j'aurais aimé justement peut-être plus que faire une carrière professionnelle, vivre un peu ce qu'a connu Eric, bah, à ce niveau-là bien sûr, mais jouer aux États-Unis parce que je pense que c'est très épanouissant.
Côté fac, c'était peut-être plus faisable aussi chez les filles.
Même au lycée, hein, parce que moi quand j'y suis allée, j'étais lycéenne, et on m'avait demandé de rester, qu'on m'offrait une bourse pour que je joue là-bas. Mais là, encore une fois, j'étais la seule fille au milieu de 30 garçons. Donc, ils se sont dit, ah bah, elle est pas mal l'européenne, on va tenter notre coup, quoi. Bon, encore une fois, mes parents m'ont dit, non, t'es gentil, tu rentres.
Alors d'ailleurs, on a parlé de vous, de votre caractère sur le terrain. Comment vous nous décrivez la joueuse, Marie-Patrice, mais sur le jeu? Est-ce qu'on est plus sur du Steph Curry ou...
Non, complètement.
Voilà, je lance la perche.
Non, mais j'étais une shooteuse. Déjà, je faisais 15 kilos, donc j'allais pas aller m'aventurer sous les paniers face à mes copines qui faisaient 1m90 et... 3 fois mon poids à peu près. J'étais très fine, hyper légère, pas du tout musclée. Donc j'avais ce sens du panier et du tir par moment où je pouvais prendre feu. C'est complètement incroyable comme sentiment. Donc moi, j'étais une scoreuse à mort, quoi. Voilà.
Vous jouez toujours un peu?
Non, je...
Plus du tout?
Plus du tout, parce que je vais le dire, Georges Henny m'a dégoûté. Non, parce que j'ai pas le temps, j'ai vraiment pas le temps, j'ai 2 enfants, j'ai beaucoup de travail, j'ai une famille, franchement c'est très compliqué.
Alors juste pour la petite référence à Georges Eddy, on va expliquer quand même pour nos auditeurs, évidemment on l'embrasse s'il nous écoute, c'est vrai que Georges est très compétitif sur un terrain de basket, on va dire ça, et c'est vrai que comme on a l'occasion de jouer avec lui de temps en temps, il est très très compétitif, mais évidemment on le salue. C'est vrai qu'on s'était croisés quand même sur quelques événements presse où je vous avais vu jouer un petit peu quand même, donc c'est les petites
occasions.
Mais c'est
pas des mensonges, hein.
Non, ah bah non.
Ce que je raconte.
Mais attendez, loin de moi l'idée de... Non, mais justement, il y a un vrai passif, et on en parlera peut-être même un petit peu tout à l'heure, mais moi, c'est un truc qui m'a toujours traumatisé, et ça m'avait frappé, notamment quand vous aviez mis la vidéo de... Je sais plus, c'était l'anniversaire de Bean, où vous aviez pris
dernière.
Des shoots. Voilà.
C'était les 50 Bean.
C'est ça.
Dernière.
Et vous aviez rentré, je sais pas, 4, 5, 6 tirs de suite.
Enfin, 10, c'était, j'ai fait 11 sur 12, en tout cas.
Voilà, j'avais même pas les comptes. Mais ça m'avait frappé, et notamment, très sincèrement, quand on avait ce projet d'émission, c'était un des trucs qui m'avait donné envie de vous inviter, c'est que je voyais cette vidéo-là et il avait fallu ce truc-là pour que certains, notamment sur Twitter, disent « Ah bah ouais, quand même, c'est jouer au basket.
Ouais. »
Et ça me met toujours un peu mal à l'aise. Et très sincèrement, parce que moi, on m'a jamais demandé ça. On m'a jamais demandé de mettre une vidéo en ligne où je mets 10 paniers, alors que pour le coup, j'ai pas le dixième du
si
quart du basket que vous avez.
Si vous croyez qu'on a demandé à Darren Tulette s'il savait bien jouer au foot.
Voilà, non mais c'est
j'ai
ça.
J'ai un doute.
C'est ça. Et voilà, moi, j'ai pas un passif basket de fou et pourtant, on m'a jamais posé la question.
Vie ma vie.
C'est ça, c'est ça. On reparle un petit peu d'ailleurs, vous avez parlé de Robert Parrish. Il y a Michael Jordan aussi qui a croisé un peu, c'était un peu plus tôt dans votre enfance.
Ouais.
Vous faites partie des gens qui étaient à ce fameux jour à Géo André.
C'était n'importe quoi cette journée à Géo André.
Alors on rappelle, petite salle.
Très petite salle. Enfin. C'est une belle salle, hein, quand même, encore aujourd'hui. Hein. Mais il y a Michael Jordan qui vient à Géo André. C'est comme si on disait, il y a Kobe Bryant qui joue à Coubertin. Quoi. Enfin, si encore Coubertin, c'est immense, on peut mettre 5000 personnes.
C'est un peu plus grand, ouais.
Mais là, en plus, Géo André, je pense que c'était pas tout à fait comme c'est aujourd'hui. C'était un peu différent, mais je me souviens des vitres qui cassent tellement il y a les gens. Oui.
Parce que donc on c'est en quelle année par contre j'ai pas noté c'est en 92 ou quelque chose comme ça hein, c'est très très c'est quand même ça a quelques années c'est vrai que
c'était la première fois que il venait en France c'est et encore je pense qu'on ne le connaissait pas tout à fait moi je me rappelle de mon père qui me dit je t'emmène voir le plus grand joueur du monde ça va être un joueur incroyable etc bon mais c'est qui etc et c'est Magic Johnson non c'était un peu ça quoi nous on était encore à ces époques là et moi, ce qui m'avait frappé ce jour-là, c'est l'hystérie des gens, en fait. Déjà, mon père avait été stupéfait de voir le monde, puisque je pense que personne ne s'attendait à ce qu'il y ait autant de monde. Et c'est de voir à quel point les gens ne lâchaient pas l'affaire. Il y avait trop de monde, il fallait faire demi-tour. Non, non, ils sont restés, ils se sont accrochés aux vitres et ils ont tout pété, quoi.
Et alors, on rappelle pour la petite histoire, on parlait de Georges Eddy d'ailleurs tout à l'heure. Il était là pour essayer de rassurer Michael Jordan et de le garder présent, parce qu'apparemment, Michael Jordan ne voulait pas aller sur le parquet. Ils ont fini par faire un petit truc, mais en effet, c'était devant un monde fou. Et vous, vous restez dehors.
Nous, on reste dehors. On reste dehors. Et mon père, qui est sérieux, hein, quand même. Et j'étais avec mon petit frère, qui est plus petit que moi, et qui me dit non mais là c'est pas sérieux qu'on reste, on a essayé de regarder à travers la vitre, puis on est reparti, on s'est rattrapé en allant au McDonald's Open, vous vous souvenez à Bercy?
Ah oui c'est vrai, voilà. C'est vrai.
Je suis allée voir Charles Barkley, je suis allée voir plein de trucs grâce à ça, c'était hyper sympa je trouvais ces opérations là.
Oui c'est vrai qu'il y a eu pas mal de trucs quand même dans les années 90 au moment de l'essor.
Ouais, voilà,
Alors je cale cette question là un peu au chausse-pied, je l'avoue, mais il fallait que je vous la pose. On a parlé de vous joueuse, je voulais parler un peu de vous supportrice. Ouais. Dans Surface Magazine, j'ai lu Marie Patrux, signe distinctif, intenable et grossière devant un match de l'équipe de France.
Oh là là, mais quelle catastrophe!
C'est-à-dire
C'est-à-dire que j'insulte tout le monde. Enfin, je suis très... je sais pas pourquoi.
J'adore vous imaginer en train d'insulter tout le monde.
Ouais. L'équipe de France, j'ai un rapport très particulier avec cette équipe-là. De vraiment, j'ai envie qu'ils réussissent, quoi. Je ne supporte pas voir cette équipe en échec. Parce que je trouve que les joueurs méritent, que la Fédé mérite, qu'il y a vraiment du travail. Peut-être parce que j'ai été de l'autre côté, que j'ai vu comment est-ce qu'on détectait les gens hyper jeunes, qu'on essayait de les former, que je connais les gens qui forment. Mais que ce soit les filles ou les garçons d'ailleurs. Mais alors, il y a des France-Espagne, je me roule par terre. Mon mari me dit non mais t'es n'importe quoi. Je lui dis mais sors, laisse-moi tranquille. Et je pense que je demande en mariage à peu près la moitié de l'équipe tout au long du match, tu vois.
Et alors, c'est quoi votre insulte préférée? Moi, c'est ça qui me...
Alors, l'arbitre, c'est siffle ta mère.
Siffle ta mère. D'accord.
Et je vais pas te dire des gros mots, hein.
Vous avez le droit, on n'est pas sur un podcast US.
Non, je dis... non, je peux dire quel boulet. Ah, mais quel boulet!
C'est gentil. Voilà. Bon, on va.
Non, mais je les aime d'abord, je les aime vraiment.
On va rester soft.
Donc, mais j'ai pleuré hein, quand ils perdent face à l'Espagne à l'Euro en France.
C'est ce que j'allais dire. C'est quoi le match qui vous a fait le plus jurer?
Alors, quand ils gagnent en Espagne à la Coupe du Monde, c'était fabuleux. Alors là, j'ai ouvert le champagne. C'était vraiment génial, quoi. Mais alors, l'Euro, le France-Espagne, là, j'étais dégoûtée. Parce que j'y ai vraiment cru. J'étais à Londres aussi également pour le France-Espagne, qui se termine pas très bien. J'étais à côté d'Yannick Souvré même. On a passé le match à se taper, à se dire que c'était pas possible, etc. Mais je pense que le France-Espagne de l'Euro, c'est le pire. La déception est trop grosse.
C'est vrai. Et alors, pour revenir sur celui des Jeux, qu'est-ce que vous dites au moment où Nicolas Batum envoie son point
Moi, je dis bien fait, non.
Bon, non, mais voilà, vous avez le droit. On a tous pensé ça.
Ouais, non, mais en même temps, je pense que je suis tellement dégoûtée qu'on soit pas dans le match à ce moment-là que je comprends ce qu'il fait. Voilà, ouais, je le soutiens à mort.
Mais d'ailleurs, sans parler de connivence ou quoi que ce soit, parce que c'est toujours la grande accusation,
ouais.
Quoi qu'il arrive, à partir du moment où on parle à ces joueurs et où même en les interviewant, il y a une empathie qui se crée.
Bien sûr, mais comme n'importe quel journaliste sur n'importe quel autre sport. Hein, je pense que la personne qui travaille sur le biathlon et qui suit Martin Fourcade tout au long de la Coupe du Monde, quand Martin Fourcade il rate ses deux tirs là au jeu... Il est déçu pour lui et il va le montrer à l'antenne. Enfin, je veux dire, on n'est pas des machines non plus. Et que n'importe qui à notre place aurait la même réaction que nous, quoi.
Mais je veux dire, même au quotidien, devant votre télé, ça ajoute quand même une couche supplémentaire d'émotion quand vous regardez le truc,
ouais, non ? On reste quand même... Si.
C'est humain, hein ?
Ouais. Non, mais
c'est humain.
Non, mais franchement.
On arrive...
Après, je les aime même quand je les connais pas. Hein.
Oui. Voilà. Après... On arrive quasiment à la mi-émission. Alors, on change pas de côté, mais on va choisir un côté, Marie. Alors, j'ai un petit jingle avec une horloge, mais je suis pas tout à fait sûr de mon effet. On verra si on coupe au montage. D'accord. Celui-là, il y a un petit chrono qui tourne derrière. Donc, très simple.
Il faut que je réponde rapidement.
Vous avez le droit d'argumenter un petit peu derrière si vous voulez, mais normalement, il faut répondre vite. Coupe Davis ou nouvelle Coupe Davis ?
Coupe Davis.
Bon, on est d'accord, comme tout le monde. Tire à 3 points ou passe décisive ?
Tire à 3 points.
Plateau à Paris ou direct sur place ?
Direct sur place.
Rockets ou Warriors, champion à l'Ouest cette saison ?
Warriors.
Le buzzer, il a déjà sonné. On va partir un peu plus loin. iPhone ou Android ?
iPhone.
J'ai la petite maison là après qui est repartie
derrière.
Voilà,
c'est sympa.
Fromage ou dessert ?
Dessert, je déteste le fromage.
C'est vrai ?
Ouais.
Oh.
Je ne peux pas.
Je ne sais pas si on va pouvoir continuer cette émission.
Si,
vous préférez gagner un Oscar ou un Grammy ?
Un Oscar, parce qu'on met des belles robes et tout ça.
Pouvoir dunker ou pouvoir marquer du milieu du terrain à tous les coups ?
Pouvoir marquer du milieu du terrain à tous les coups. Ça fait gagner tellement de matchs.
Ah, c'est vrai. Moi, je pensais plus pour le côté style, mais vous voyez l'efficacité. C'est pas mal. Michael Jordan ou Roger Federer ?
Oh, quelle horreur ! Mon Dieu ! Je peux pas faire ça, Roger Federer.
Ouais, j'ai lu que vous aimiez bien Roger Federer.
Ouais, j'aime beaucoup Roger Federer.
C'est quand même, c'est le plus grand tennisman de tous les temps.
Ouais.
Et c'est vrai que parmi les sportifs,
il gagne encore. Et je l'ai vu gagner de mes propres yeux, donc il s'est passé un truc entre nous.
Carrément. Pourquoi pas, Marie. On va entamer cette deuxième partie d'émission.
Ah, X-Files.
Exactement. On va rentrer un petit peu dans la quatrième dimension.
Oula,
c'est la séquence réalité alternative un petit peu.
Science-fiction, comme dit Jacques.
C'est
on
ça.
Fait de la science-fiction.
C'est ça. En fait, okay. On arrive dans le moment où je demande à l'invité ce qui se serait passé pour lui s'il n'y avait pas eu son métier.
Si, alors, vous, n'avez, allez-y, allez-y.
Si vous n'aviez
si
pas, pas
été
journaliste,
qu'est-ce que j'aurais fait ?
Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ?
Alors, je pense que j'aurais travaillé sûrement peut-être dans le marketing ou quelque chose comme ça. J'adore réfléchir à comment faire fonctionner un produit, les choses, tout ce qu'il peut y avoir autour de ça. Et pourtant, je ne voulais absolument pas faire d'école de commerce. Hein. C'était un truc, un postulat. J'ai eu mon bac, j'y ai jamais de la vie, je fais ça. Mais je trouve qu'en grandissant, c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup.
Donc, vous se retrouveriez autour du sport
pub,
ou partout même ?
Ouais, un peu. Mais ouais, le sport, c'était quand même un truc qui m'intéressait énormément. Mais je voulais pas être prof de sport comme toutes mes copines du basket, finalement. Je voulais faire autre chose. Mais après, moi, je m'intéresse beaucoup aussi au monde de la culture, les musées, les trucs comme ça. Enfin, genre à l'ère du temps. Voilà, ma sœur, elle travaillait dans le design. Mon père, il travaillait là-dedans aussi. On est une famille très... très tourné vers ça.
Alors, vous parliez de la fac tout à l'heure. Moi, j'ai lu, c'était dans une interview sur Basket USA d'ailleurs, vous avez fait des études d'histoire.
Mm-hmm.
Vous avez une licence ?
Maîtrise.
Maîtrise.
Ouais.
Pardon.
Mon sujet de maîtrise, histoire de l'alimentation dans le sport.
Ah, histoire de l'alimentation. Qu'est-ce qu'on apprend sur l'histoire de l'alimentation dans le sport ?
On apprend que très vite, on s'intéresse à l'alimentation pour les performances sportives. C'est pas si nouveau que ça, en fait.
J'ai l'impression d'entendre tous les jours, moi, un joueur de 25 ans qui dit « J'ai découvert que si je mange pas de burger, finalement, je suis meilleur. »
Il y a très longtemps, il savait déjà.
C'est vrai que là, maintenant, ils sont quand même...
Oui,
il y a des
Bon, Joel Embiid a bien mangé un burger en se faisant étirer il y a 4 jours. Hein.
C'est ce qu'on disait là. On a vraiment l'impression quand même que... Jusqu'à 25, 26, voire 30 ans pour certains, on dirait qu'ils ne savent pas encore.
Hein, finalement. C'est assez faux.
Ah oui,
c'est une prise de... Après, il y a des priorités. Il y a des périodes où la priorité, c'est de prendre du muscle. Et là, la priorité, c'est prendre plus soin de son corps, justement, pour ne pas trop se blesser.
Et alors, en histoire, moi, j'avais lu aussi que vous étiez passionné par Napoléon.
Ouais, il y a eu la Révolution, il y a eu Napoléon. J'ai eu des profs sur ces deux matières-là, complètement passionnants. Et j'adorais aller à ces cours-là. Parce que ce qu'ils nous racontaient, enfin, je trouvais ça génial, quoi. C'est des périodes qui ne sont pas si lointaines que nous, de nous. Et en même temps, Napoléon, c'est un personnage incroyable. Et que j'ai adoré travailler là-dessus. Je pense que j'ai repris ce module-là à peu près tous les ans pendant 3 ans, ouais.
Bah, et puis c'est un personnage incroyable et qui a une influence partout, au final.
Ouais. Et puis, très longue, il revient, il repart, il revient, il repart.
Il y a un truc sur Napoléon qui vous a marqué, que vous pouvez nous apprendre
ou... Génial, c'est d'avoir fait le code civil, d'avoir fait tant de choses pour la société, en fait.
Et
pas que des guerres.
Moi, je vous dis... Oui, non, mais c'est ça. Moi, je vous dis ça, je vous dis, il est partout, parce que je suis allé... Alors, il se trouve que je suis allé à Rouen il y a une semaine, il y a une statue de Napoléon sur la place de l'Hôtel de Ville à Rouen.
Mais il faut aller aux Invalides, hein, par le tombeau. Hein.
Oui, oui.
C'est complètement dingue.
Mais sur le coup, moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait à Rouen? Il n'était pas normand, on n'est pas à Ajaccio.
Ouais, qui ne connaît pas Napoléon?
Et en fait, en faisant des recherches, il se trouve qu'il a fait des choses pour la ville de Rouen, ouais, que ce soit dans l'industrie, etc. Donc, il a une empreinte quand même qui était à peu près partout, en effet, sur la France. Et la Révolution française aussi, alors, du coup?
Ouais, pareil, j'avais un prof, je suis désolée, je me souviens plus, mais il est très connu, en plus, il a écrit des tonnes de bouquins, c'était une référence, parce que j'étais à Paris 4 à la Sorbonne, donc vraiment, l'image de la fac, dans sa plus pure définition, et l'amphi était blindé. Mais vraiment, amphi blindé, blindé, et il n'y avait pas un bruit dans l'amphi, parce que c'était comme un film, on avait l'épisode 5 de la saison 1 de la Révolution. Et je pense que c'est un cours que je n'ai jamais raté, vraiment.
Et ça vous a jamais... Alors, vous faisiez la maîtrise d'histoire pour préparer les concours des écoles de journalisme. Il n'y avait pas d'envie d'en faire autre chose après.
Non, parce que... Après, on découvre le travail de recherche, des chercheurs, etc. Mais moi, je suis quand même beaucoup dans l'efficacité et dans l'immédiateté. Donc, j'ai beaucoup de mal à prendre mon temps, à réfléchir, à refaire mon plan, à aller rechercher un autre truc... J'ai besoin que ça aille très vite, quoi. Donc, je pense que j'étais quand même pas trop faite pour le milieu universitaire.
C'est pas la même écriture.
Non plus.
On va revenir au journalisme. Alors, vous parlez basket. On a dit aussi au début hand, tennis, natation, foot, puisque vous allez être sur le PSG Real. Vous êtes le couteau suisse de Bine.
C'est ça.
C'est important de varier un peu pour vous.
Ouais. Parce que avant tout, on est journaliste. Voilà. On n'est pas journaliste de natation, de hand, de machin. Pour moi, la première chose que doit faire un journaliste, c'est s'intéresser à tout. C'est super d'être passionné par un sport, mais ou par un domaine comme la politique, la médecine, les faits divers, peu importe. Mais l'essence même de ce métier-là, c'est de s'intéresser à tout. Moi, j'adore le sport. J'ai fait ça, je fais ce métier-là parce que j'aime le sport. Et je vois pas pourquoi je devrais plus faire de basket que de hand ou que de natation. Je suis capable, je pense, de couvrir ces sports-là parce que mon expérience et la maîtrise de mon métier me permet de faire ça aujourd'hui. C'est aussi pour rappeler, encore une fois, qu'un journaliste n'est pas un expert, mais c'est quelqu'un qui accompagne et qui va juste expliquer ce qu'il voit. Il n'est pas là pour nous expliquer pourquoi Nicolas Karabatic ne jouera pas demi-centre, etc., etc.
Vous avez fait un peu de presse généraliste avant le sport ou pas du tout?
Non.
Non.
Enfin, j'ai fait pendant mes stages. Hein. Moi, j'ai même fait de l'économie parce que je suis allée à BFM Radio. Je suis allée à RTL où j'ai fait de la... plus de l'infogéné, quoi. Mmh. Après, à l'école, on fait beaucoup d'infogéné. On se spécialise pas du tout. Hein. Mais je pense que c'est une force aussi de savoir ce qu'on veut faire. Moi, je voulais faire du sport, ça a été très simple. Je voulais aller faire mon stage dans une rédac de sport, je voulais insister là-dedans. Donc j'ai jamais véritablement travaillé sur un contenu généraliste.
Et ça vous tente un peu pour la suite ou pas du tout encore?
Non.
Non?
Non.
On est dans le point...
Si, ça me tente pas. Enfin...
Après, j'attends pas que vous me disiez que vous voulez quitter Bine, hein. Il n'y a pas de souci.
Non, mais faut que vous sachiez que j'adore les faits divers.
D'accord.
Voilà. On a un groupe de journalistes, pas que de Bine, qui s'appelle Faites entrer l'accusé. On a un groupe WhatsApp où on échange sur ce genre de choses et tout ça. Et on espère tous secrètement présenter un jour Faites entrer l'accusé.
D'accord. Donc il y a une concurrence interne dans WhatsApp.
Je vais en pousser certains dans les escaliers.
Là, ces dernières semaines, vous y êtes pas mal.
On est débordés. On a fait un dîner d'ailleurs.
Alors dit comme ça, ça peut sembler un peu lugubre.
Non, mais c'est pas. Enfin bon. Non, c'est parce que le genre humain nous intéresse. On se demande comment un humain est capable de faire ça, en fait, c'est tout.
C'est passionnant, mais du coup, dans ce registre-là, c'est Affaires sensibles de Fabrice Drouel, ça doit vous passionner.
Mon podcast préféré de l'univers, la voix, tout, la manière dont c'est raconté. En plus, il y a de l'histoire dedans, il n'y a pas que des faits divers, il y a des morceaux d'histoire. Enfin, vraiment, c'est le truc que j'écoute en faisant le ménage, parce que je fais le ménage aussi. Et quand je fais de la route super longtemps, je les saoule. Par exemple, on est allé à Lille à la finale de Coupe Davis, j'aurais dit super, on va se mettre deux podcasts sur la route, ça va être génial.
Vous avez fait écouter Affaires sensibles,
Fabrice Santoro, tout le monde dans la voiture, mais ils ont adoré.
Ah, mais c'est un podcast qui est passionnant.
Ouais,
et c'est vrai qu'en termes de faits divers, de temps en temps, il en a des costauds.
Il raconte super bien.
C'est extrêmement bien fait. C'est extrêmement bien fait. Pour revenir un petit peu du coup à ce que vous avez fait dans le sport, votre souvenir le plus fort, du coup, vous parliez un petit peu de préférer être sur le terrain. Vous avez fait, on l'a dit, plein de choses, hein, du Wimbledon,
non, mais
du hand.
De journaliste,
pour
mon
vous,
souvenir le plus
pour vous.
Fort.
Voilà. Sur place.
Voilà, mais franchement, Je le disais il n'y a pas longtemps, le fait d'être sur place et de vivre l'événement, c'est déjà quelque chose qui est très fort pour moi. Enfin, je suis tellement contente de me dire, mais quelle chance tu as de vivre ça en direct, d'être là, etc. C'est vraiment génial, quoi. Bon, d'être allé aux Jeux Olympiques, c'est le graal ultime pour moi, d'avoir vu un France-États-Unis en basket. Avec toutes les stars qu'il y avait en Team USA cette année-là, il y avait James Harden, il y avait Kevin Durant, il y avait tout le monde. Bon, c'était fantastique, la salle a été pleine à craquer. J'ai vu l'équipe de France de hand devenir championne olympique, j'ai vu Teddy Riner remporter son premier titre olympique. Bon, c'était génial, quoi. Là, cette année, quand les filles deviennent championnes du monde de hand, bon, là, je les adore, ces filles. Et puis l'équipe de France de hand l'année dernière en France, c'était... Enfin, franchement, je pense que tout... Je suis hyper enthousiaste, quoi. Voilà.
Et Roger Federer en gagnant des Wimbledon sur ce que vous faites ?
Bien sûr, l'année dernière.
Ah oui, l'année dernière, voilà. Et Wimbledon, c'est spécial ou pas ? Alors là, je pose la question, c'est quasiment perso, parce que je rêve d'y aller et que je n'y ai pas encore mis
les
pieds.
Alors, si j'ai un conseil à vous donner, il faut y aller une fois dans votre vie. Parce que on connaît tous plus ou moins Roland-Garros, en tout cas grâce à France Télévisions, qui nous donne des heures de tennis et on a tous révisé notre bac devant Roland-Garros à un moment donné de notre vie. Et... c'est tellement différent. Wimbledon, c'est la perfection. Je pense que nous, Français, on n'a jamais vu un événement sportif organisé avec une telle précision. Même les fleurs sont bien choisies. Ah oui, mais quelle bonne idée d'avoir mis ces fleurs-là à cet endroit-là. Les couleurs, tout est formidable. Il faut savoir qu'à Wimbledon, il y a des cours de tennis qui sont ouverts à tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas sur un court, on se balade entre les courts. Il y a des bancs autour des cours et on s'assoit, on peut boire de l'alcool, ce qui pour nous est totalement inconcevable, et on peut marcher. Dire le tennisman s'en fiche que l'on marche et qu'on bouge à ce moment-là. Et les Anglais, il n'y a aucun débordement, ils se baladent entre les cours de tennis, il y a un tournoi junior qui est en train de se dérouler, et puis il y a le Centre Court qui est on sent le poids de l'histoire. Voilà, c'est un des rares endroits où je suis allée, où je sens le poids de l'histoire tous les jours.
Est-ce que les supporters sont un peu moins dissipés?
C'est interdit en fait.
Parce que le premier souvenir que je garde d'avoir regardé Wimbledon à la télé, c'est que j'avais l'impression que les applaudissements, c'était une tranche audio qu'on montait et qu'on descendait, qui descendait avec un fade quoi.
C'est les Anglais, ils sont comme ça. Ils picolent toute la journée, mais ils savent se tenir.
c'est le mélange. Ou alors ils sont endormis. Vous avez aussi présenté le forum sur l'équipe TV. Alors je sais plus si c'était l'équipe TV ou 21 à l'époque parce que ça a changé.
C'était TV.
Et vous aviez souvent dit que c'était une période très épanouissante parce que vous avez rencontré beaucoup de monde. Quel est, pareil, celui qui vous laisse le meilleur souvenir, même humainement, d'avoir rencontré comme ça en plateau ?
Tony Estanguet est une personne formidable. Voilà, il n'était pas encore président du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024. Il n'avait pas remporté, il était une fois champion olympique. Voilà, c'est quelqu'un qui... Il y a des sportifs comme ça qui ont du charisme. Voilà, et qui arrive sur un plateau et on sent le charisme de cette personne et la gentillesse de cette personne, l'amour de son sport. Voilà, c'est quelqu'un qui est... Mais franchement, tous les gens que j'ai rencontrés ont été hyper sympas. Bichente Lizarazu, c'était hyper drôle. Enfin, y en a que j'ai découvert drôle aussi. Vraiment, où on s'est marré et je trouve ça hyper sympa d'aller faire Tony Parker alors qu'on n'est pas encore... c'était il y a 10 ans, je venais d'avoir ma fille quand j'ai commencé cette émission. Donc, franchement, je donnerais ces trois noms-là, par exemple, mais il y en a eu tellement, on a fait deux saisons, toutes les semaines, il y avait quelqu'un, quoi.
Bon, alors, vous avez le droit de ne pas répondre, parce qu'on a dit qu'on ne cherchait pas le buzz. Ouais. Est-ce que vous allez oser me dire qui a été infect ?
Alors, je ne vais pas le citer... Alors, à cette époque-là, c'était Charles Bietri qui commentait encore l'émission et j'étais chroniqueuse dans l'émission. Il y a un monsieur qui a très longtemps travaillé dans la télé qui ne m'a jamais regardé et ne m'a jamais répondu en me regardant droit dans les yeux parce que j'étais une fille. Voilà. Qui répondait très bien à mes camarades autour de la table, mais c'était comme si je n'existais pas. Enfin, vraiment.
D'accord.
Voilà.
C'est charmant.
Et c'était très charmant, en effet.
Et alors, c'est toujours difficile ou pas d'être une femme dans le journalisme sportif ?
Je sais pas.
Ou pas plus que dans la société en général. Hein.
Ouais,
ça peut être,
franchement, pour moi, ce n'est qu'une illustration de ce qu'on peut vivre. Moi, je suis pas trop dans le combat du féminisme. Hein. Attention, hein. Comme je l'ai dit au début, je pense que le travail paye et que la méritocratie, ça existe à un moment donné de sa vie. Donc, c'est pas toujours facile. c'est sûr. Il faut accepter que, en effet, on va travailler plus que d'autres. Il faut avoir du caractère à un moment donné. Il faut pas se laisser faire. Voilà. Il faut pas se laisser faire et il faut pas non plus être la combattante infernale qui va aller râler tout le temps. Je pense qu'il faut peut-être prendre les choses avec un peu plus de recul et voir ce qui va se passer, quoi. Et si on fait bien notre travail, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, on ne le voit pas.
Dans une interview aussi de la Pause Actu, vous disiez, je pense être arrivé à l'époque où on mettait quasiment n'importe qui à l'antenne, ouais, c'est-à-dire des jeunes femmes, certes très jolies, mais qui n'étaient pas forcément intéressées par le sport. Est-ce que vous pensez qu'on est revenu de ça, justement, et que maintenant, on met des gens à l'antenne pour leurs compétences?
Ouais, je pense. Franchement, c'est un peu fini, les erreurs de casting. Et puis, je pense aussi qu'on ne veut plus percevoir la femme de la même manière. Voilà, que l'image de la femme a un peu évolué. Je dirais que je parle comme si j'avais travaillé pendant 50 ans. Je pense que ça a évolué et qu'on a envie également de montrer des filles qui maîtrisent leur truc. C'est un peu vieillot, je trouve, de dire elle y connaît rien, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là, etc.
Mais vous avez calmé ça un petit peu d'ailleurs, parce que ce que vous disiez, vous deviez forcément l'entendre au début.
Mais évidemment que je l'ai entendu au début, mais surtout dans le basket, parce que au handball on m'a jamais rien dit, vraiment, hein. Et pourtant je fais du handball quatre fois dans l'année, et du basket j'en fais tous les jours, hein. Et j'y ai joué pendant 20 ans. Le tennis on ne m'a jamais rien dit. Je pense que le public basket est assez différent, disons-nous, comme dirait
exigeant.
Jacques Monclar, un peu extrémiste par moment.
Oui, c'est vrai que ça peut être un petit peu.
Voilà.
Il faut pas
c'est
toucher
très passionné,
à certaines choses.
Quoi. Ouais, voilà. Non, mais on n'accepte pas non plus trop le changement.
Oui, ça peut faire partie de ça aussi.
Il n'y a pas eu beaucoup de filles qui ont parlé de basket, je pense.
C'est vrai. Et alors justement, il n'y a pas beaucoup de filles qui commentent non plus.
Non.
Sur, alors là, tout sport confondu.
Ouais.
Ça, c'est un truc qui vous tenterait ou...
Je l'ai déjà fait. Hein.
D'accord, sur du basket.
Ouais, ouais. Alors, j'ai fait un Euro Espoir ou un Mondial Espoir avec Edwin Jackson et tout ça. Mais j'étais à Eurosport à l'époque.
D'accord.
Il y a très, très longtemps. Après, c'est un exercice très particulier, très très particulier. Moi, j'aime bien faire ça, mais c'est toujours, je sais pas. Il faut peut-être plus le travailler, j'en sais rien. Après, moi, j'ai trouvé ma place dans ce que je fais aujourd'hui, donc j'ai pas vraiment envie de changer non plus.
Mais c'est l'argument qui revient souvent, parce que vous disiez, il faut travailler, c'est la voix.
Ouais.
Beaucoup de filles disent...
Ouais, je me suis fait tuer la dernière fois.
Voilà,
que
je dis ça. Mais même beaucoup de femmes disent, voilà, moi je ne suis pas hyper confiante sur la voix, je pense que c'est un peu plus long.
Alors est-ce qu'on n'est pas confiante parce qu'on ne nous met pas en confiance?
Aussi,
je ne sais pas.
Aussi, bien sûr. Hein. Mais c'est vrai que certaines disent que sur la durée, une voix plus aiguë, ça peut être...
Mais surtout quand il faut s'exciter sur un dunk de Russell Westbrook, quoi. Ce serait compliqué, non?
Après, toutes les voix masculines ne sont pas forcément agréables quand elles hurlent non plus.
C'est vrai, non, mais je pense que c'est un cliché un peu, hein, qu'on a et dont on a du mal à se défaire. Mais parce que commenter du tennis, ce serait pas impossible non plus. Géraldine Pons, sur Eurosport, elle commente du patinage artistique, hein, et elle le fait très bien. Donc, encore une fois, il faut bousculer les lignes, il faudrait se lancer et attendre que l'avalanche passe et recommencer et recommencer et recommencer. Sauf qu'à un moment donné, il faut savoir aussi qu'on est un peu fatigué de devoir se battre tout le temps et qu'on a envie d'être un peu dans notre confort dans lequel, moi, j'ai l'impression d'être en ce moment. Quoi.
Après, c'est vrai que, pour revenir sur les réseaux sociaux, l'avantage, a priori, c'est, on parlait tout à l'heure de gens qui n'étaient pas forcément légitimes à l'antenne ou qui étaient mis là pour être là, on va dire. C'est vrai que c'est aussi moins possible parce que sur les réseaux sociaux, vous avez dû vous faire votre place, mais maintenant qu'elle est faite, vous êtes reconnu comme légitime.
Ouais, mais je pense pas que ce soit les réseaux sociaux qui fassent les journalistes. Hein.
Non, bien sûr, attention, hein, je dis absolument pas ça.
Non, mais c'est pas parce qu'on dit bien de quelqu'un que c'est quelqu'un qui est excellent, ou à l'inverse.
C'est vrai.
Ça peut être un vrai danger, je pense, pour notre métier aujourd'hui, aussi.
Les réseaux sociaux ?
Ouais.
L'influence
Ouais. Parce que finalement, c'est quoi ? C'est 1% de...
Ah oui.
Enfin, c'est minime, hein. Il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Et je pense que par moment, on perd un peu les pédales face à ça.
Mais pour le coup, je suis assez d'accord avec vous. Je prends un exemple. Mais en effet, l'exemple le plus courant, c'est de dire est-ce que ma mère ou ma grand-mère est sur les réseaux sociaux ? Et en fait, non, personne. Voilà. C'est un microcosme.
Mais est-ce que ma mère ou ma grand-mère... Il y a plus de gens qui vont regarder le live et l'émission que mon compte Twitter, par exemple.
C'est un échantillon au final des réseaux sociaux et qui est pas forcément représentatif.
Et qui est pas forcément représentatif. C'est très facile d'accès, mais je ne pense pas que ce soit représentatif.
Et alors les commentaires, c'est difficile. La direction, il y a pas beaucoup de filles non plus.
Non.
Ça c'est peut-être la prochaine étape justement.
Ouais, je vais pas dire je vais être chef à la place du chef.
Si, si, vous pouvez y aller.
Ouais, ouais, non, mais évidemment que c'est un aspect du travail qui m'intéresse aujourd'hui dans le sens où je gère des choses dans mon travail aujourd'hui. Voilà, c'est quelque chose que je fais. Je suis pas chef, hein, attention. Il y a des chefs et ils sont très bien là où ils sont. Mais je pense qu'en effet, ça fera partie de l'évolution de ma carrière, entre guillemets.
Mais alors, même alors que ce soit pour votre carrière et même pour les autres femmes qui sont dans le journalisme, c'est aussi une évolution.
Encore une fois, je ne suis pas un modèle.
Oui, oui, non, mais.
Chacune fait son parcours et chacune. Après, moi, je trouverais ça très bien, en effet, qu'à un moment donné. Bon, il y a Anne-Sophie de Christophie hein, qui est à TF1 aujourd'hui. Je pense qu'il faut arrêter d'être frileux. Voilà.
Après, c'est une évolution logique générationnelle aussi, ça va.
Oui, mais je vois pas pourquoi on choisirait plus un mec qu'une fille, finalement. Parce qu'ils ont eu l'habitude d'avoir que des mecs autour d'eux. Donc voilà, mais il faut pas choisir une fille, parce que c'est bien d'avoir une fille autour de la table pendant les conférences de rédaction. Enfin, faut aussi qu'il y ait un peu de justice autour de tout ça, quoi. Je pense qu'on est un peu schizo par moment avec ça.
Bon, on va terminer sur une note un peu plus légère. On va revenir un petit peu au basket. Quelques pronos pour cette fin de saison. C'était
bon, bah les Warriors, Stephen Curry. Voilà.
Non, mais alors, pour je vais vous permettre de faire en plus un peu de promo. Mais c'est vrai qu'au début de l'année, on n'était pas forcément rassuré sur l'issue de la saison. On voyait des Warriors très favoris quand même.
Ouais.
Et finalement, c'est quand même plus intéressant que prévu, notamment à l'Ouest.
C'est vrai. À l'Ouest, c'est très ouvert. Je pense qu'on va avoir des finales de conférence. Autant on a été un peu déçus par les playoffs l'année dernière. On va pas se mentir. Autant, je pense que cette année, surtout au bout du parcours, ça va être passionnant.
Et à l'Est, les changements, enfin le Cleveland-Boston éventuel, même si Toronto est devant, au moment où on enregistre, c'est pas mal aussi. Parce que là, il y a toutes les histoires, même pour vous, et ça fait quand même des angles assez sympas.
Parce que je ne vois pas une finale sans LeBron. Je n'arrive pas... Bon, en même temps, ça fait des années que LeBron est là. Mais je me dis, mais comment... Qui peut battre LeBron en play-off? J'ai du mal à y croire.
Vous prêchez un convaincu.
Voilà. Bah après, peut-être que je me trompe et que ce sera l'année de Toronto. Mais
la grimace, on a dit non.
Toronto, les Raptors Warriors en finale.
Ouais, Toronto Warriors, oui, c'est vrai que ce serait un peu dur.
Quoi. Enfin,
ça serait un peu dur. Bon, donc Warriors quand même à l'Ouest.
Ouais, mais je pense que les Rockets sont vraiment prêts cette année.
Merci beaucoup.
Mais avec plaisir.
Marie-Patrux, d'avoir été notre deuxième invitée. Alors, la petite tradition. Alors, déjà, je vais rappeler un petit peu les informations de fin. On vous rappelle que si vous aimez l'émission, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Il n'y aura pas de pub dans ce podcast. C'est vous qui soutenez. Et la petite tradition de fin d'émission, Marie, c'est à vous et c'est à l'invité de choisir la musique. J'ai plusieurs choix.
Ok,
vous.
Je vous écoute.
Alors, on a Electric Light Orchestra avec Mr. Blue Sky, on a Arcade Fire avec Neighborhood, on a Il ne rentre pas ce soir d'Eddie Mitchell, on a In the Sun de She and Him, on a Le chanteur de Balavoine et Down the Drain de Lilywood and the Brick.
Je vais mettre Arcade Fire.
Allez, Arcade Fire, on va se quitter avec ça alors. On va lancer ça tranquillement. Et encore une fois, merci beaucoup Marie-Patrux.
Mais avec plaisir. Merci beaucoup.
Très bonne fin de saison et à bientôt tout
à
le
bientôt,
monde
merci,
sur 48.
Bon courage.
Merci. My parents are crying.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.